Code éthique religieuse par le Père Marie-Dominique Philippe, le 16 novembre 2001 à Saint-Judas.
Quelques petites questions. Quelle est la juste place du bonheur dans la philosophie d'Aristote? Pour Aristote, le bonheur semble premier. Et Jean Venier l'appelle le principe de la morale aristotélicienne. Pourtant, le bonheur semble une fin lointaine et même idéale, un projet qu'on réalise dans sa vie, un projet qu'on réalise dans sa vie. Dans une éthique réaliste, qu'est-ce qu'on peut dire du bonheur humain ? C'est très vrai. Aristote dit ça en raison de Platon. Alors, il prend le bonheur, non pas, Aristote lui-même ne serait pas d'accord de dire que le bonheur semble, l'appelle le principe de la morale aristotélicienne. C'est la finalité qui est le principe. Ce n'est pas la même chose. Le bonheur, c'est une manière d'être. C'est pas... Aristote distingue entelecheia et energeia. La fin immanente est entelecheia. Donc c'est le bonheur. Mais c'est plus un principe. Le principe, il est extérieur. Il est ce qui cause en moi le bonheur. Mon bonheur ne me cause pas le bonheur. Autrement, on serait tous dans le bonheur. Or, c'est atteindre ma fin qui est mon bonheur. Donc, le bonheur n'est pas principe. C'est pas le principe finalité. Le bonheur premier pour Aristote, c'est l'amitié. C'est une fin, l'amitié. Je ne dis pas à mon ami, tu es mon bonheur. On peut le dire, tu es cause de mon bonheur. Ce n'est pas l'ami qui est bonheur. L'ami est cause de mon bonheur. Oui. Petite distinction qui est quand même très importante. Distinguer l'energeia et entelecheia. Entelecheia, c'est je suis en état de bonheur. Je suis heureux. Ça, être heureux. Je suis heureux. Et energeia, c'est l'acte, le bien. C'est le bien qui me rend heureux quand j'atteins le bien. Et c'est très important parce que sitôt Aristote, les stoïciens regardent beaucoup plus l'immanence, entelecheia, que la vraie fin, energeia. La fin, je ne la possède pas, mais c'est elle qui me rend heureux. Quand j'atteins ma fin, je suis heureux. Et je suis heureux, c'est mon état. Parce que j'atteins ma fin. C'est la différence entre le ronronnement du chat qui se chauffe auprès du feu. J'ai vu un chat qui ronronne. Il est extrêmement stoïcien. Il ronronne. Il est heureux. Parce qu'il ronronne. Et il s'en fiche pas mal de la fin objective, de ce qu'il finalise. Instinctivement, il va auprès du feu. Et si vous mettez le caresser, c'est-à-dire à chatouiller son front, il ronde de plus en plus. Il est dans le bonheur. Et quel est quelqu'un. Il donne une image merveilleuse de ce que c'est. Hein. C'est le chat, il est fait pour ça. Pour vous réveiller, pour dépasser votre contentement de vous-même. Vous êtes content, vous ronronnez. Et l'ange gardien vous frotte sur votre front. Et là, vous ronronnez encore mieux. Et puis, une télécaillot qui est la poursuite de ma faim. Et ma faim. Alors, pourriez-vous nous dire un mot sur le statut de l'éthique religieuse ? Est-ce un jugement de sagesse sur l'agir humain ? Non. L'éthique religieuse consiste à reconnaître que Dieu est ma fin ultime. Le jugement de sagesse, c'est ma connaissance que j'ai de Dieu qui m'éclaire sur tout ce qui m'entoure. Donc ça reste un jugement de sagesse. Et je peux poser ce jugement de sagesse dans la mesure où je connais Dieu. Tandis que l'éthique religieuse consiste d'agir comme une créature de Dieu. Agir comme une créature de Dieu, c'est reconnaître en premier lieu que Dieu existe et qu'il est mon créateur. Donc, le statut de l'éthique religieuse, c'est reconnaître que Dieu est mon créateur. Et comme je reconnais que Dieu est mon créateur, j'adore. C'est pour ça que le premier acte caractéristique d'une éthique religieuse, c'est l'adoration. Parce que reconnaître que Dieu est créateur, au point de vue pratique, réclame l'adoration. Si vous reconnaissez que Dieu est le créateur de votre âme, vous le saluez en l'adorant. La salutation, c'est reconnaître pratiquement que Dieu est mon créateur. Je peux le reconnaître spéculativement, mais je ne le reconnais pas vraiment. Reconnaître que Dieu est mon créateur, c'est reconnaître que je suis entre les mains de Dieu, que Dieu a créé mon âme et que je reste entre les mains de Dieu. Puisque l'acte créateur est éternel, il est actuel. Actuellement, Dieu crée mon âme. Actuellement, je suis entre les mains de Dieu. Voilà l'attitude propre de l'éthique religieuse. C'est reconnaître pratiquement que Dieu est mon créateur. C'est pas seulement reconnaître que Dieu est l'être suprême, parce que je peux reconnaître que Dieu est l'être suprême en mettant des démiurges, des intermédiaires. Pour Platon, il y a un démiurge qui est le créateur, c'est pas Dieu. Donc il n'y a pas une relation directe. Tandis que reconnaître que Dieu est le créateur direct de mon âme, il y a une relation directe avec Dieu. Je n'atteins pas Dieu directement, toujours par l'intermédiaire de son action, par l'intermédiaire de sa création, mais je suis en relation avec celui qui agit directement sur moi. reconnaître spéculativement que Dieu existe, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant pour une éthique religieuse. L'éthique religieuse commence lorsque l'existence de Dieu modifie toute ma vie. Et l'existence de Dieu modifie toute ma vie quand je reconnais que Dieu est mon créateur. Et reconnaître que Dieu est mon créateur, c'est me soumettre à lui. Puisque je dépends totalement de lui en tant que créature. L'éthique est pratique. Ce n'est pas une connaissance spéculative. C'est une connaissance pratique. Elle est directement sous l'emprise de ma finalité. Quelle est ma finalité ? Si Dieu est mon créateur, je dois le reconnaître comme mon créateur et je dois adorer. Et en l'adorant, je le connais pratiquement et je peux alors me demander, puis-je le contempler ? C'est la seconde attitude de l'éthique religieuse. La première attitude, c'est l'adoration. Vous voyez, là, vous voyez la différence avec l'éthique chrétienne. La première attitude de l'éthique chrétienne, ce n'est pas l'adoration. C'est la préparation de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est l'amour qui est premier. Et l'adoration est une forme d'amour. Donc, ça change. C'est là où vous voyez tout de suite la différence entre l'éthique chrétienne et l'éthique religieuse. Et l'éthique humaine, c'est d'aimer mon prochain. De le respecter et de l'aimer en premier lieu. Et alors il y aura tout ce qui conditionne l'amour. Pour que je puisse aimer, ce sera la justice. Vous voyez ? Alors vous aurez tout de suite là deux éthiques différentes. Une éthique qui reconnaît que tout est commandé par la justice. Et l'éthique qui reconnaît que, au-delà de la justice, il y a l'amour. L'amitié est la fin propre de l'éthique tout court. Ce n'est pas la justice. La justice vient en second lieu. Pour que l'amour d'amitié puisse exister, il faut la justice. C'est une condition sine qua non. S'il n'y a pas la justice, l'amour se détériorera très vite. Il n'y aura non plus l'amour, mais la fusion. Et la fusion détériorise l'amour d'amitié. Parce qu'on ne respecte plus assez l'autre. On le manœuvre. Et on s'en sert. Et se servir de l'autre, ça fait dégrader l'amitié en un amour utilitaire. Et la justice est plus que l'amour utilitaire. Quand l'amitié se dégrade en fusion avec celui qu'on aime et qu'on ne le respecte pas comme l'autre, un ami, l'ami implique le respect le plus grand à l'égard de l'autre. Je ne fusionne pas avec mon amitié, avec mon ami. Quand je fusionne avec mon ami, en considérant l'ami, voyez, d'une façon mauvaise, comme un autre moi-même, alors le considérant comme un autre moi-même, je le considère comme moi, et non pas comme un autre moi-même. Je le considère comme moi, il m'appartient, il est bon bien. Et donc, tout ce que je désire faire, l'ami doit le faire. Nécessairement, parce que c'est mon bien. Alors, il y a fusion. Le bien de l'ami n'est pas mon bien. Il faut respecter, c'est le bien de l'ami. Il est autre. C'est très important, ça, de voir la dégradation de l'amour d'amitié par un égocentrisme. Et la dégradation. L'amour d'amitié exige la justice, le bien de l'autre. C'est nécessaire pour que l'amour d'amitié. Est-ce que cette étude permet aux philosophes sages à passer un jugement, à poser un jugement sur les éthiques des différentes traditions et des différentes croyances religieuses? Oui, sûrement que je puis juger de la valeur d'une éthique religieuse par rapport à l'adoration. Sûrement, puisque c'est l'acte propre de l'éthique religieuse. Donc c'est ça qui manifeste le mieux les caractères de l'éthique religieuse. C'est la manière dont vous adorez l'être suprême, Dieu. Alors vous voyez la qualité tout de suite d'une éthique religieuse. Il faut donc bien discerner ce qui est propre à l'éthique religieuse, ce qui est propre à l'éthique humaine tout court, ce qui est propre à l'éthique chrétienne. Vous voyez ? Et pour cela, vous voyez, le premier acte de l'éthique religieuse, l'adoration de mon Créateur. Le premier acte de l'éthique humaine tout court, c'est l'amour d'amitié. Ce n'est pas le premier selon l'ordre génétique, c'est le premier comme ce qui caractérise l'éthique. Ce qui caractérise l'éthique humaine, c'est l'amitié. Si l'éthique humaine n'aboutit pas à l'amitié, l'éthique humaine, ça ne tient pas. Et vous tombez tout de suite dans l'éthique humaine, premier devoir, l'État. Ce n'est pas le premier devoir, l'État, c'est l'amitié. L'amitié exigera telle ou telle chose, et comme je suis un être social, le point de vue du respect de l'État. Mais ce n'est pas premier. Ça ne touche pas la fin immédiate. Et l'éthique chrétienne, elle est premièrement d'amour. Alors, une question. Qu'est-ce que veut dire « nous avons identifié foi et morale » ? Oui, j'ai dit ça rapidement dans un cours. Constamment, le chrétien qui est chrétien, le Saint-Père le dit du reste dans son encyclique « Foi et raison », le chrétien instinctivement à identifier foi et attitude humaine, attitude philosophique. Blondel est un exemple très net de ça et qui a formé énormément le clergé français. Et on en voit les conséquences. C'est-à-dire que on ne pense plus à ce qu'il y a de propre au point de vue philosophique. On passe tout de suite à la vie chrétienne, parce que c'est plus explicite. Alors, on voit tout dans la lumière chrétienne. Et par le fait même, on ne respecte plus assez le point de vue philosophique. L'encyclique du pape, c'est de respecter pleinement ce que saint Thomas a fait, une sagesse philosophique qui se tient par elle-même et qui est indépendante de la foi. Alors que pour Blondel, au fond, on ne peut atteindre cette sagesse philosophique que dans la foi. Il y a un blocage. Vous voyez, et ça, c'est l'influence du protestantisme. Pour le protestant, il n'y a pas de philosophie. Pour le protestant luthérien. Parce que l'intelligence a été abîmée par le péché. Si l'intelligence a été abîmée par le péché, elle ne peut retrouver son appétit de vérité que par la foi. Et beaucoup de chrétiens sont là. Je me souviens que le premier contact que j'ai eu avec Lyon, maintenant je n'ai plus beaucoup de contacts, mais au début, et je me souviens très bien de la manière dont on me recevait, et on disait ouvertement, mais il ne peut pas y avoir de philosophie. On a plus que la philosophie, on a la foi, donc on ne doit pas faire de philosophie. On doit tout de suite faire de la théologie. Alors, j'ai laissé exprès pousser le plus loin possible. Et on arrivait à n'écouter que des chrétiens. Seul le chrétien peut dire quelque chose d'intelligent. Et l'homme comme homme, non, ne dit rien d'intelligent. Alors vous voyez, tout de suite, on coupe. Êtes-vous chrétien? Alors je peux vous parler. Mais non, êtes-vous un homme? Et je vous parle en tant que vous êtes un homme. Et je vous conduirai à la vie chrétienne, qui n'est pas la vie humaine. Il faut distinguer les deux. Et c'est très important de distinguer les deux. Il y a une recherche de vérité qui se fait au point de vue humain. Alors, vous en disiez foi et morale. Et aussi, c'est ce que j'ai dit, en parlant de cette audience avec le Saint-Père, pas celui-ci, pas le antécédent. Le Saint-Père avait dit le plus grand danger du christianisme aujourd'hui, c'est justement de confondre le point de vue, de ne plus voir le point de vue philosophique, donc de confondre foi et morale. La foi doit illuminer la morale et pas l'inverse. Alors, tout simplement, comprenons, la foi corrige, élève la morale. Si je suis chrétien, toute la morale humaine est assumée par une morale chrétienne. Et pas l'inverse, ce n'est pas la morale qui assume la foi. C'est du fidéisme ou c'est seulement un manque de distinction des différents niveaux. Mais la plupart du temps, c'est du fidéisme. Et le pape disait, le Pie XII, le plus grand danger pour le christianisme actuellement, c'est le fidéisme. C'est-à-dire de tomber dans l'erreur de Luther. Beaucoup de chrétiens, sans le savoir, sont tombés dans l'erreur de Luther. Ils n'ont pas cultivé leur intelligence pour elles-mêmes. Ils n'ont pas cherché à découvrir la vérité humaine, la vérité de l'homme comme homme. Et tout de suite, ils regardent le chrétien. On comprend très bien ça. C'est l'éducation, elle est chrétienne pour le petit bonhomme dans une famille chrétienne. On éduque le petit bonhomme à être chrétien. C'est lui-même qui, en grandissant, doit arriver à distinguer la raison de la foi. Mais la première éducation, elle est chrétienne. Je ne veux pas dire un foyer chrétien, ils sont mariés à l'église. Ah, éduquez d'abord vos enfants humainement, à la manière d'Aristote. Surtout pas dire ça, ce serait complètement stupide. Vous éduquerez vos enfants chrétiennement, la prière. Vous les éduquerez à partir du Christ. Mais quand ils grandissent, s'ils ont des capacités de l'intelligence suffisantes, vous les éveillerez à la philosophie. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Oui, oui. Cette parole de Dostoïevski. Qui n'est pas juste, est-elle un bon exemple de manque de discernement et donc de fidéisme ? C'est très vrai. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. C'est juste l'inverse. Si Dieu n'existe pas, d'abord, c'est pas vrai. Donc, je ne bâtis rien là-dessus. Si Dieu n'existe pas, je comprends très bien. Si je ne sais pas, taisez-vous. Cherchez d'abord à comprendre que la réalité implique l'existence de Dieu. Mais si je suis en face de quelqu'un qui ne regarde pas l'existence de Dieu et qui pratiquement vit comme si Dieu n'existait pas, il est un homme et il a d'autres hommes en face de lui. Et donc, ayez au moins une morale humaine. Aujourd'hui, c'est très utile, en face de l'État, qui ne croit pas en Dieu, officiellement ne croit pas en Dieu, mais vous devez réclamer d'eux une morale humaine. Une morale où il est permis de développer l'homme. Et c'est juste l'inverse du fidéisme. Le fidéisme engendre très, très vite l'athéisme. C'est le contraire. C'est pour ça qu'il faut qu'on maintienne à tout prix la recherche philosophique. Dans un monde comme le nôtre, c'est très nécessaire. Être fidéiste dans notre monde d'aujourd'hui, c'est au fond engendrer une attitude de dire, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Si Dieu n'existe pas dans votre vie, dans votre perspective, vous avez encore le devoir de respecter l'homme. Et vous devez arriver à aimer l'homme et à lutter pour la justice et l'amitié. Nous étions arrivés à voir comment l'adoration, qui est l'attitude fondamentale d'une éthique religieuse, donc l'adoration est toujours présente dans une éthique religieuse. Elle doit être toujours présente. Et c'est dans la lumière de l'adoration que nous pouvons préciser les points essentiels d'une éthique religieuse. L'adoration engendre une attitude, c'est, je dis bien, une attitude d'abandon. Mais comprenons bien, d'abandon, c'est-à-dire de confiance en la providence de Dieu. Dieu dirige tout. Dieu est le Père de tout. Et grâce à lui, j'essaie de vivre dans un abandon à l'égard de lui, à l'égard de Dieu. C'est-à-dire que je lui remets tout. Voyez, l'adoration, acte personnel, abandon, c'est une attitude fondamentale et qui est beaucoup plus à l'égard de la Providence. Je sais que Dieu gouverne le monde, si Dieu existe. Il gouverne le monde. Mais je sais que dans ce gouvernement du monde, il y a des forces adverses. Il y a le péché. Alors, je vois l'adoration et le péché. Et il y a aussi Dieu. Il y a premièrement Dieu. Donc, cette attitude d'adoration engendre tout de suite une confiance à l'égard de Dieu qui me gouverne. Une confiance, un abandon religieux à l'égard de Dieu qui me gouverne. Autrement dit, l'attitude d'adoration se prolonge dans une confiance filiale à l'égard de la conduite de Dieu sur moi. Mais cette attitude filiale ne peut pas être absolue. On voit ça de temps en temps. On a tous connu des vieilles tantes qui vous disaient, des fois, tout abandonné, tout vient de Dieu, c'est très bon, c'est très bon. Et on voit tout d'une façon fausse, mais comme si tout était bon. Non, tout n'est pas bon. On vit, et l'attitude religieuse, on vit dans un monde où le mal existe. Et dans l'éthique religieuse, je sais qu'il y a quelqu'un qui lutte contre Dieu. Si je ne savais pas ça, je ne serais pas vrai dans mon attitude religieuse. Je crois que dans l'attitude religieuse, on voit tout de suite que nous devons lutter pour rester bon, pour rester religieux. On a une lutte constante. Alors, on appelle ça les forces du mal. C'est vrai. On vit avec un monde qui est constamment adversaire de ce que j'essaie pour être bon. Je vois que je ne peux pas prudemment, la prudence, m'abandonner complètement. Parce que je ne peux pas discerner tout de suite ce qui vient de Dieu et ce qui vient du mauvais. Je ne précise pas, je vois simplement le mauvais. Qui est ce mauvais? Je le sais au point de vue chrétien que c'est le démon. Si je ne suis pas chrétien, je vois qu'il y a quelqu'un d'opposé à Dieu. L'éthique religieuse fait tout de suite la distinction entre l'adoration qui me demande de m'abandonner à Dieu et puis les forces du mal. Je ne précise pas, le malin, je suis entouré de forces du mal. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Mais, au fond, je dois lutter pour rester fidèle à mon adoration, pour rester fidèle à mon Dieu créateur. Et je crois que dans l'éthique religieuse, très vite, je dois voir cela, ces forces du mal. Autrement dit, que l'homme religieux doit lutter. Je n'ai pas encore la précision que j'ai dans l'éthique chrétienne entre les exigences du Christ et les tentations du démon. Je ne peux pas encore préciser que ces forces du mal sont démoniaques et que relèvent de Lucifer. Pour cela, il faut la révélation. Mais préciser les forces du mal exige seulement la connaissance que je puisse avoir dans une éthique religieuse entre l'accomplissement de quelque chose qui est dans le sens de mon attitude religieuse, de mon acte religieux, m'abandonner au bon plaisir de Dieu. Je ne peux pas m'abandonner au bon plaisir de Dieu en fermant les yeux. Je sais que m'abandonner au bon plaisir de Dieu va impliquer la lutte. Donc l'éthique religieuse va tout de suite préciser les forces du bien et les forces du mal. Je suis en face d'une éthique précise et qui m'aide à voir d'une façon très nette ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui est contre cette volonté. Mais je ne peux pas préciser d'où ça vient. Parce que je ne peux pas affirmer philosophiquement l'existence du démon. D'une personne mauvaise. J'affirme qu'il y a des forces du mal. Et ça, on le constate. Pas besoin d'avoir la foi. Il suffit de réfléchir. On voit des forces mauvaises qui vous empêchent constamment de faire ce qui, selon votre conscience, est bien.